France Inter.
Ceci n'est pas mon visage. Celui-ci non plus.
C'est Elon Musk qui te parle.
Vous pouvez sélectionner la célébrité avec laquelle vous souhaitez générer un deepfake.
Pour devenir par exemple un gangster ou le prochain attaquant vedette du PSG.
Le football, il a changé.
Je te montre comment faire.
Deux clics pour changer de visage, c'est ce que promettent des dizaines d'applications. Avec à la clé une explosion des arnaques, une vidéo de Tom Hanks qui fait la promotion d'un cabinet dentaire, Alain Delon qui explique avoir enregistré une vidéo avant sa mort, et un faux Brad Pitt qui, au fil de plusieurs mois de relations amoureuses imaginaires, arrache plus de 800 000 euros à sa victime. À l'échelle de la planète, le coût total des attaques, rançons, arnaques sur Internet avoisine les 10 000 milliards de dollars. Le chiffre ne fait qu'augmenter. L'intelligence artificielle apporte aux pirates de nouveaux outils. Elle permet d'augmenter la puissance de feu des armes numériques en ciblant les banques, les services publics ou les hôpitaux.
En France, il y a deux types d'hôpitaux. Il y a ceux qui se sont fait avoir et ceux qui ne le savent pas encore. On était dans la première catégorie. On fait 50 millions d'analyses automatisées par an. Imaginez une journée de panne, tout ce qu'il faut faire à la main. Alors les gens sont surpris à l'heure actuelle en disant « c'est incroyable, il y a des cyberattaques sur les hôpitaux ». Soyez plutôt surpris qu'ils soient encore debout.
Dans un monde virtuel où les apparences sont plus que jamais trompeuses, nous sommes tous des cibles. 9 Français sur 10 ont déjà été confrontés à une situation de malveillance informatique et les usurpations d'identité explosent, plus 90% en un an. La manipulation des voix et des images permet aujourd'hui de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, vous allez le constater dans quelques instants. Nous avons aussi réalisé une partie de l'habillage de cette émission avec des musiques générées par l'intelligence artificielle. Cyberarnaque, l'autre visage de l'IA, c'est un reportage d'Anaël Verzo.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Je suis prêt de mon côté, si c'est prêt pour vous.
Voilà, on est chacun dans une salle différente. Moi, je suis face à un écran et Jérôme Bilois est devant son écran dans une salle pas très loin de la mienne. Et vous allez sans doute reconnaître des voix que vous connaissez bien sur France Inter.
Eh bien, c'est parti.
Donc ça, c'est la voix de Jérôme Bilois, notre hacker éthique.
Et bien maintenant, ça n'est plus ma voix. Aujourd'hui, nous allons parler de deepfake, une technologie, oui, qui peut faire basculer des vies. Comment ? Nous allons le voir.
Mais alors que faire ? Comment se protéger ?
C'est toujours Jérôme Bilois qui nous parle, mais ce n'est pas la voix de Jérôme Bilois. Ce n'est plus non plus la voix que vous aurez sans doute reconnue de Fabrice Drouel, de l'émission Affaires Sensibles, mais une autre voix de France Inter.
Eh oui, je vous parle avec la voix de Nicolas Demant. Mais alors que faire ? Comment se protéger ? Eh bien, posez une question que seul votre vrai interlocuteur connaît.
On le reconnaît un peu moins bien. Est-ce que vous pouvez continuer un petit peu, peut-être présenter des informations avec la voix de Nicolas Demorand ?
Je dis que la voix de Nicolas marche moins bien, tu peux repasser dessus.
Deuxième sujet de ce journal, la cybersécurité. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir un expert dans ce domaine qui va nous éclairer sur la manière dont ces groupes fonctionnent.
Et par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Vous pouvez m'appeler ?
Je peux vous faire le scénario complet, je vous le fais.
Allô ?
Oui, Anaël, c'est Fabrice.
Ah, coucou Fabrice,
oui,
comment tu vas ?
Là, là, ça va pas bien, là, j'ai un problème. Je viens d'avoir un accident de voiture et j'ai des problèmes. Là, il faudrait que je puisse payer immédiatement le dépanneur. Et en fait, ma carte bleue, elle ne marche plus. Et je ne vois pas comment je peux m'en tirer. Je n'arrive pas à voir d'autres personnes que toi. Est-ce que tu peux m'aider ?
Et tes filles ? Tu n'as pas pu joindre tes filles ?
Non, personne ne répond. J'ai essayé tout le monde et il n'y a que toi qui réponds. Et j'ai vraiment besoin que tu envoies de l'argent rapidement parce que là, je suis bloqué. Je vais t'envoyer un message, c'est pas mon numéro non plus, pour que tu puisses faire un virement rapidement parce que là, sinon, je vais pas réussir, moi. OK ?
Non, mais Fabrice...
Je te mettrai dans le message, mais j'ai pas le temps, là. Il y a le dépanneur qui arrive, ça va être 200 euros, un truc comme ça.
Non, mais attends, moi, j'ai pas l'argent.
Merci, je te rembourserai, pas de problème. Et puis là, normalement, ça coupe.
Ah ouais.
Pour vous laisser, justement, ton expectative.
Et après, je reçois le message, le SMS que vous m'envoyez.
Vous recevez un SMS qui dit, c'est Fabrice, venant d'un numéro que vous ne connaissez pas. mais cohérent avec la discussion que vous venez d'avoir, et qui dit voilà l'Iban, il faut le virer en virement immédiat, 200 euros à tel garage qui va venir m'aider.
Je reviens dans votre salle. J'arrive. Les fausses voix, on ne vous reconnaît pas du tout derrière.
C'est ça la force, malheureusement, de cette technologie. C'est que sur la voix, aujourd'hui, on a des résultats qui sont quasi parfaits. La difficulté est après d'imiter le style et le ton de la personne. Et c'est comme ça, souvent, qu'on va être capable de le détecter. Parce que chacun a une diction différente, utilise des mots différents.
Par exemple, j'ai trouvé que l'imitation, enfin le deepfake de Fabrice Drouel était plus juste que celui de Nicolas Demorand, qui marchait un peu moins bien.
Oui, parce que dans la manière dont je l'ai préparé, j'ai passé plus de temps à écouter Fabrice Drouel et à essayer finalement de reprendre son phrasé, la manière dont il présente Affaires Sensibles, que celle de Nicolas Demorand dans le journal, qui est quelque chose de plus classique quelque part. Voilà pour la partie voix, et maintenant eh bien, on va vous partager l'écran. Et on va vous montrer ce que ça peut donner sur la vidéo. Voilà, vous voyez l'original à gauche, le faux à droite.
C'est incroyable, oui, on voit le visage de Nicolas Demorand.
Voilà, et puis si effectivement je tourne, on voit que le visage suit bien, etc. La différence, c'est les cheveux. Oui, bon, ça, on n'y peut pas grand-chose, j'aurais dû acheter une perruque avant cette démonstration. Mais voilà, on voit vraiment la capacité à changer de visage. Et voilà, me voilà maintenant avec un autre visage.
Maintenant, vous ressemblez vraiment à Fabrice Drouel.
Exactement.
Alors, sauf les cheveux, oui.
Voilà, c'est les cheveux, c'est toujours la limite. D'ailleurs, c'est un des conseils qu'on peut donner si vous êtes face à cette situation. Les logiciels de changement de visage aujourd'hui ne couvrent que le visage en tant que tel. Et donc, c'est l'environnement proche, les cheveux, les oreilles qui peuvent donner des indications sur le fait qu'on n'est pas en face de la vraie personne.
Vous avez mis combien de temps pour créer ce deepfake ?
Très concrètement, on parle de 2 heures d'entraînement du logiciel sur un ordinateur qui vaut quelques milliers d'euros. On n'est pas du tout sur une technologie qui est inaccessible. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus simple de faire ces deepfakes pour les cybercriminels. Il faut avoir évidemment des photos des personnes, il faut avoir des enregistrements audio des personnes, mais maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des médias, c'est très facile finalement d'accéder à ces informations.
Est-ce que vous savez, vous, les ingénieurs en cybersécurité, techniquement reconnaître un deepfake ?
Alors, est-ce qu'on sait bien détecter les deepfakes, audio comme vidéo ? La réponse, c'est techniquement non. En fait, aujourd'hui, c'est une des limites, et il y a justement beaucoup de start-up qui travaillent sur ces sujets. Mais à date, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut revenir à des anciennes méthodes. La question piège, demander par exemple, je vais essayer de faire le test, de passer la main devant le visage. Voilà, on va voir que le système, normalement, dysfonctionne. Voilà, vous voyez mes doigts ? Le nez, finalement, est au-dessus de mes doigts. Et ça permet de détecter si c'est une fausse vidéo.
Est-ce qu'il y a des deepfakes qui ont eu lieu, qui ont permis à des hackers de récupérer de l'argent ?
Le deepfake qui a eu le plus de retentissement est celui qui a touché une entreprise à Hong Kong où un employé s'est fait berner lors d'une fausse vidéoconférence avec 3 personnes connectées, des personnes qu'il connaissait, mais qui en fait n'étaient pas les vraies personnes, et qui lui ont demandé donc de faire un virement de 25 millions de dollars. Il s'est exécuté et donc l'entreprise a perdu cette somme. Il y a eu d'autres cas de deepfake très célèbres, par exemple le cas de Zelensky qui annonçait la reddition de l'Ukraine face caméra.
Il y a aussi le directeur financier de Ferrari en Italie.
Le directeur financier de Ferrari a été ciblé par un deepfake. Il a reçu un appel, soi-disant, de son directeur général, qui lui demandait de faire un virement pour un projet urgent. Et bien, le directeur financier, il a eu un doute, il a posé une question. Il a demandé au directeur général de Ferrari quel était le livre dont ils avaient parlé lors du dernier conseil d'administration. Et là, subitement, la communication s'est coupée. L'escroc a été démasqué et il a raccroché pour ne pas être pris plus loin dans le problème.
Parmi les victimes des deepfakes dans le monde entier, il y a Michelle. C'est la directrice France d'une multinationale de la tech, spécialisée dans la protection des banques. Le siège de l'entreprise est au Portugal et Michelle, elle, vit à Paris, dans le 15e arrondissement. Et là, je me trouve sur son palier, juste devant sa porte.
Bonjour.
Annaëlle, je vous en prie.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Michel, je peux dire que vous avez été une victime indirecte, on va dire, d'une usurpation d'identité. liée à l'intelligence artificielle. Je peux dire ça comme ça ?
Ça s'est passé l'été dernier, lorsque tout le monde était en vacances. J'étais moi-même en train de prendre tranquillement mon petit déjeuner, quand je reçois un message WhatsApp de prétendument mon CEO.
Donc de votre directeur.
Tout à fait. Il s'appelle Nuno Sebastião.
Il disait quoi le message ?
Il disait, Michel, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous parler de manière urgente d'un sujet confidentiel. Quand peut-on faire une visio ? C'est lui qui m'a contacté, il m'a envoyé un lien Zoom pour faire une visio.
Vous avez cliqué sur le lien ?
Et là, je vois une image de Nuno Sebastião qui a une expression un petit peu différente de celle que je lui connais. Il avait l'air vraiment fermé, inquiet. C'est son image qui parle, même si je n'entends pas le son.
D'accord, mais vous voyez une image en mouvement.
Oui, tout à fait.
Et cette image lui ressemble, c'est lui ?
Elle lui ressemble, oui, de très très près. Sur ce, il m'envoie un message en me disant qu'ils avaient besoin de mon aide, qu'un cabinet d'audit leur indiquait que dans le cadre d'une acquisition, de l'acquisition d'une société, ils avaient besoin que j'effectue un paiement pour eux, étant donné qu'ils ne pouvaient pas le faire du Portugal. Alors voilà ce qu'ils m'ont dit via WhatsApp.
Et vous demandez un virement de combien ?
Ils n'ont pas spécifié le montant. Ils m'ont dit que le cabinet d'audit en question me contacterait pour me donner les détails.
Est-ce que vous avez fait le virement demandé ?
Non. Non, absolument pas.
À quel moment vous avez eu un déclic où vous vous êtes dit « mais c'est pas lui » ?
En fait, dès le départ, je me suis doutée qu'il y avait un problème. Au moment du message WhatsApp, je me suis dit « pourquoi il ne me contacte pas par messagerie interne ? Pourquoi il ne m'appelle pas ?» J'ai trouvé ça quand même très bizarre. C'est pas terminé parce qu'une fois qu'ils ont vu que je ne réagissais pas, ils m'ont envoyé un deepfake de sa voix. Et là encore une fois, c'est un autre signal d'alerte, puisque sa voix en deepfake était un petit peu métallique.
Ah.
Et puis j'ai bien senti que de toute façon, ce message, c'était pour essayer de me donner un petit coup de pouce pour réaliser l'opération, parce qu'il sentait... C'est sûr que c'est tout à fait possible de se faire avoir.
Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien.
Florent Pagny s'adresse à l'une de ses fans pour lui soutirer de l'argent.
Et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité.
Sauf que l'artiste n'a jamais tenu ses propos.
C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça.
Ce jour-là, quand son téléphone affiche « numéro inconnu », Jennifer De Stefano hésite à décrocher.
J'ai entendu la voix de ma fille qui pleurait, qui sanglotait, qui me disait « Maman !» Elle disait « Maman, des types m'ont enlevé, aide-moi !»
Puis un homme poursuit la discussion et réclame une rançon.
À 53 ans, Anne a été victime d'une énorme arnaque sentimentale avec l'intelligence artificielle. Un compte se faisant passer pour Brad Pitt la contacte.
En fait, on est potes, au départ. Moi, c'est ce que je pense, au départ.
Au fil des semaines, les échanges avec le faux Brad Pitt deviennent plus intimes.
Mon amour, je te promets de t'aimer pour toujours. Veux-tu m'épouser ?
Dimanche dernier, un Charentais reçoit un coup de fil de sa mère lui demandant son numéro de carte bleue, sauf qu'en fait, cette voix était générée par l'intelligence artificielle.
C'était donc la voix de ma mère. Elle commence à m'expliquer qu'elle est à la gare, qu'elle a perdu son téléphone, qu'elle a perdu son sac.
L'usurpateur finit par raccrocher. On ne sait pas comment il a récupéré la voix de sa maman.
Alors, je suis le général Patrick Perrotte, je suis conseiller IA au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, donc en charge de tout le domaine de l'intelligence artificielle avec l'élaboration de visions stratégiques autour de la formation, autour du développement d'applications, autour des partenariats qu'on peut engager, comme également autour de tout ce qui relève de la conformité de la réglementation.
On se trouve dans votre bureau, Patrick Perrotte. Et là, on se trouve devant un écran d'ordinateur. Il y a des images, des portraits de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Il y a écrit « test d'authentification ».
C'est des images qui, pour certaines, sont fausses, pour certaines, sont vraies.
Alors, ce petit test d'authentification dont vous l'avez fait faire aux gendarmes, c'est bien ça ?
Exactement. Là, vous avez une femme avec des yeux qui sont tournés vers l'extérieur. Ça, c'est assez difficile pour une IA de réaliser cette cohérence avec un axe du regard cohérent. Donc ça, on peut considérer qu'elle est bonne, d'autant qu'il n'y a pas d'autres défauts derrière. Et pourtant, vous voyez, le fond est noir. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un fake. Mmh. Au milieu, vous avez une femme, elle est très stéréotypée. Vous voyez que ses oreilles ne sont pas tout à fait identiques. Mmh. Vous voyez les boucles d'oreilles qui ne sont pas identiques, mais même la forme des oreilles n'est pas tout à fait identique. Et le reste du visage est assez parfait. Alors, je ne vais pas dire que les êtres humains n'ont pas des visages parfaits, mais parfois, c'est un petit peu trop. Et puis, sur la droite, vous avez une femme qui tire la langue. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de grimace n'est pas toujours simple à réaliser, mais au-delà de la difficulté à réaliser ces images pour des IA génératives, c'est aussi le reflet dans les lunettes. On voit un certain nombre de cohérences de reflets dans les lunettes. Ça, c'est des choses qui doivent attirer notre attention. L'exposition par rapport à la luminosité, les ombres portées sont aussi des éléments importants pour détecter le vrai. Donc, en l'occurrence, celle-ci est vraie.
D'accord. Donc, la seule fausse, c'est celle du milieu qui a des oreilles un peu étranges, effectivement, enfin, un peu grandes, peut-être.
De forme un peu différente.
Ouais.
Oui, je vous l'accorde,
c'est pas évident. Pas simple. Hein.
Et ouais. On peut se tromper. En réalité, pourquoi on a fait ce test? Parce que souvent, on entend dire, non, mais l'humain est meilleur que l'intelligence artificielle. En réalité, ce n'est pas le cas pour des tâches très spécialisées, en l'occurrence pour la détection des deepfakes. Là, le test, on a construit sans images et on a demandé à des gendarmes de détecter si c'était du réel ou du fake ou du faux. Le résultat humain, il est de 52%, c'est-à-dire quasiment une chance sur deux de se tromper. Le résultat de l'IA est de 93%.
D'accord, c'est-à-dire que vous avez un logiciel qui fonctionne via l'IA et qui va détecter les fakes générés par l'IA. Si je vous suis bien, c'est ça?
Exactement, on a construit notre propre logiciel. L'objectif, c'est d'utiliser l'IA pour détecter les impostures réalisées par l'IA. Pourquoi on travaille dessus? C'est pour révéler des infractions. Typiquement, dans le domaine de la pédopornographie, il y a beaucoup de deepfakes qui sont réalisés avec des visages d'enfants que l'un et l'autre pouvons laisser sur les réseaux sociaux. Leur visage peut être récupéré pour apparaître sur des vidéos pédopornographiques, parce qu'il y a toujours un intérêt pour ce type de criminalité de créer des nouvelles images. On a aussi tout ce qui relève de l'atteinte à la réputation. Ça peut être l'atteinte à la réputation d'une entreprise, ça peut être l'atteinte à la réputation d'une personne, en l'exposant notamment sur ce qu'on appelle le porn revenge. Et ça, c'est quelque chose qui...
Revanche pornographique.
Oui, c'est globalement, si vous voulez, je prends votre visage, je prends le visage de quelques personnes, je le mets sur des vidéos porno et potentiellement ça les expose en termes de réputation.
La législation évolue, la répression aussi. Les pirates qui créent de fausses vidéos à caractère sexuel risquent désormais 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais l'intelligence artificielle, capable de créer des musiques comme celle que vous entendez en ce moment, pose aussi une question essentielle, celle de la puissance de feu des outils malveillants. L'IA donne aux hackers la possibilité de multiplier le nombre d'attaques et de cibler plusieurs réseaux en même temps. Des banques, des groupes de médias, les données numériques des médecins. C'est dans la pharmacie, au sous-sol de l'hôpital de Corbeil, au sud de Paris, qu'a rendez-vous Anna Elverzo. L'établissement a été la cible de cyberattaques il y a 1 an et demi.
En perception de vie si loin, si proche, le monde entier dans un moment si brioche, un univers dans un train, un avion, interception dans chaque bruit, chaque son.
Là, on est dans les sous-sols de l'hôpital, on est au niveau moins 1. Et puis, il y a une petite machine qui avance toute seule. C'est comme une petite voiturette. Elle fonctionne grâce à des lumières qui sont au plafond. Et cette machine va chercher les médicaments. Allez, on rentre à la pharmacie de l'hôpital.
Marie-Laure.
Marie-Laure, et votre nom?
Maestroni. Chef de service de la pharmacie.
Merci. Alors, on fait un petit tour avec vous. On visite la pharmacie, voilà. Qui est un hangar.
De stockage, c'est comme chez Amazon. Oui. En fait, vous avez une partie avec du stockage qu'on appelle en palette.
C'est impressionnant. Il y a des cartons, entassés sur des étagères qui montent jusqu'au plafond.
Voilà. Donc là, ce sont les stockeurs rotatifs. Donc, en fait, c'est des équipements qui tournent. Et donc, là, vous voyez, là, le préparateur qui prend les médicaments qui ont été demandés par les services.
Donc c'est complètement automatisé, les étagères défilent. Et là, vous prenez quoi? C'est quoi
une
ça?
Insuline.
Une insuline. Emplacement quantité 22, terminé.
Ça, c'est quand le système d'information fonctionne. Les services font les demandes dans un logiciel et c'est envoyé directement au stockeur rotatif.
Il y a
80 armoires qui montent tous les jours dans les services et on sort à peu près 3500 lignes de médicaments et dispositifs médicaux tous les jours.
Là, ce que je comprends, c'est que le jour où il y a eu la cyberattaque, tout ce système-là ne fonctionnait plus.
Non, non. Ce jour-là, en fait, tous les équipements de la pharmacie ne fonctionnaient plus parce qu'en fait, tout est lié. Et s'il n'y a plus de système d'information, en fait, plus rien ne fonctionne. Les infirmières ne pouvaient plus faire les commandes. Et nous, on ne pouvait pas délivrer les médicaments parce qu'on ne savait pas ce dont ils avaient besoin. Donc, c'est tout ce circuit qu'il a fallu remettre en place au format papier.
Sauf que ça prend du temps.
Alors, ça prend du temps. On a dû fermer la pharmacie pendant 48 heures. Vous ne pouvez plus prendre des patients, par exemple, à haut risque d'hémorragie parce qu'on ne va pas faire une communication des groupes sanguins avec une fiche papier. Enfin, c'est très risqué. Voilà. Et donc, du coup, il y avait quand même une activité qui était réduite, mais il y avait quand même beaucoup de patients dans l'établissement.
Et vous avez réussi à tout assurer, à fournir tout le monde en médicaments ?
Oui, on a réussi. Il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu d'erreur d'administration ou d'incident grave. Il n'y en a pas eu du tout sur l'établissement.
Voilà. Vous avez beaucoup travaillé.
Tout crise, en fait. On avait la crise Covid, après on a eu la crise de cyberattaque.
Et donc, c'est là qu'est intervenue Éléonore, qui est juste à côté.
Éléonore Jouvet, pilote de crise et experte en cybersécurité. C'était vraiment un des gros enjeux du coup pour nous de donner un petit peu d'air au plateau technique, à la pharma, au labo, etc. pour assurer un minimum vital de continuité d'activité puisqu'il était hors de question de fermer l'hôpital.
Est-ce que vous vous préparez à des attaques d'ampleur démultipliées à cause de l'intelligence artificielle ?
Complètement. On pourrait tout à fait imaginer aussi que des réseaux d'hôpitaux qui sont sur le même système d'information soient attaqués en même temps. Tout le médico-social, souvent, il partage des réseaux informatiques avec un organisme de gestion. Du coup, on pourrait avoir des impacts complètement démultipliés. Et oui, l'intelligence artificielle pourrait servir à des attaquants pour créer des scénarios d'attaque encore plus complexes à gérer pour nous derrière et en étant hyper discret, donc on aurait du mal à les détecter et à empêcher l'attaque. Et donc on pourrait aussi imaginer des scénarios catastrophes où on attaque en simultané tous les hôpitaux de France et de Navarre. Maintenant, l'IA peut aussi servir à se défendre.
Et vous préparez les équipes, c'est ce que je comprends ?
Complètement. Via des exercices de crise, via des scans aussi de vulnérabilité, donc qui sont des outils informatiques qu'on utilise pour vérifier ce qui potentiellement peut représenter une faille de sécurité et qui pourrait être exploité pour venir mener une cyberattaque.
Petite machine qui avance dans l'obscurité. Il y a des lumières oranges au plafond qui clignotent. À la Défense, c'est la tempête aujourd'hui, et je me trouve juste devant le campus cyber. C'est un endroit où on étudie la cybersécurité, mais pas seulement, c'est aussi un endroit où on expérimente, où on cherche à détourner, à arrêter les cyberattaques. Allez, traverser là sous la pluie. Entrer à l'intérieur du campus cyber.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Enchanté, Yann Bonnet, PG du campus cyber. Bienvenue au campus.
Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour.
Vous avez même le sweatshirt Team Campus. Hein.
Oui.
On monte au 13e étage, j'ai vu là.
On va attendre que les étudiants montent.
Oui, c'est ça.
Priorité aux étudiants.
Et on se trouve avec Yann Bonnet, qui est donc le directeur du campus.
Bienvenue au campus cyber. Effectivement, le campus cyber, c'est un lieu où on a plus de 1000 experts de la cyber qui viennent joindre leurs forces. C'est un lieu qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes ces personnes, ces 1000 personnes, aident à mieux protéger notre société et à mieux faire rayonner l'excellence française.
Attendez, c'est ouvert la nuit aussi ?
Alors, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le monde n'est pas là, mais en cas de crise, il peut y avoir des personnes qui vont intervenir, des sortes de cyberpompiers qui vont essayer de parer ces attaques.
C'est un peu comme les médecins de garde, il y a des cyber de garde, comment dire ?
Exactement, il y a un peu un SAMU ici qui va rediriger vers les bonnes équipes en cas d'attaque. On a en gros trois grandes missions au campus. La première, c'est l'éducation. On a besoin d'attirer des nouveaux talents, de montrer, de sensibiliser, parce que la cyber, ça nous concerne tous. On a une deuxième mission qui est le sujet de l'innovation. On doit innover, on ne peut pas laisser l'innovation uniquement aux attaquants. Et donc, c'est là où on travaille beaucoup, notamment sur des sujets d'IA appliqués à la cyber. Et puis enfin, on a un vrai enjeu de protection, de protéger notamment des acteurs qui sont les moins matures. On voit un déplacement de la menace cyber de plus en plus vers des acteurs comme les PME, les collectivités, les hôpitaux. Et donc, on a un vrai défi de rendre la cyber accessible au plus grand nombre.
Le campus cyber existe depuis combien de temps ?
Alors, on est assez récent, hein. On a ouvert il y a 3 ans, et donc après 3 ans, on a plus de 1000 experts qui travaillent quotidiennement, et on a à peu près 300 organisations qui se retrouvent au campus, à la fois des acteurs publics, comme l'ANSSI, qui est l'Agence de cybersécurité de l'État. On a même, si vous cherchez bien, des services de renseignement, des espions, si vous cherchez, qui sont là, c'est assumé. Et on a des chercheurs, comme l'INRIA, le CNRS, le CEA. On a des start-up, on a des grands groupes, comme Orange Cyberdéfense, Thales, Capgemini. Et on a aussi beaucoup d'écoles, une quinzaine d'écoles, dont 5 qui donnent des cours. Donc ça fait une vraie diversité d'acteurs qui travaillent ensemble pour mieux protéger notre société et faire rayonner l'excellence française.
Alors là, on va passer les barrières de sécurité.
Ouais, on va juste demander
un badge
à l'accueil.
Bonjour. Merci. On s'approche d'une salle dans laquelle se trouvent des étudiants de l'EPITA, qui est une école hébergée ici au campus cyber. Les étudiants qui arrivent dans la salle.
Donc, je me présente, je suis Gaël Musquet, je suis hacker éthique, et mon métier ici, c'est d'animer en partie le Lab Cyber, qui est au 3e étage. En 2013, je suis tombé gravement malade, et j'ai dû, pour améliorer l'efficacité des soins qui m'étaient administrés, hacker une partie de ma chambre d'hôpital, donc le réseau Wi-Fi, les moniteurs de Signvito. J'ai raconté tout ça sur Internet, ce qui a fait que je me suis fait remarquer par le directeur technique du SAMU de Normandie, qui m'a gentiment invité à lui raconter un peu comment on pourrait améliorer en fait les conditions de travail des agents hospitaliers en Normandie. Nous sommes devenus super amis. Et du coup, depuis, entre autres, pas que, je hack des voitures pour pouvoir améliorer un peu le quotidien de ces soignants et rendre les véhicules un peu plus sûrs. Et donc, votre boulot, ça va être aussi de vous mettre dans la peau de l'attaquant et d'imaginer ce que l'on pourrait faire, ce que l'on pourrait mener comme attaque sur les prochains hôpitaux, les prochaines cliniques, les prochains laboratoires de biologie. Et l'IA, dont on va parler aujourd'hui, c'est un super bon outil pour ça. On a un CyberEng ici, en bas, au 3e. C'est un super serveur avec plein de mémoire vive, plein d'espace disque et plein de machines virtuelles. On va pouvoir virtualiser en fait, un hôpital ou une ville ou plusieurs hôpitaux ou plusieurs systèmes hospitaliers. Vérifier que ces systèmes sont capables de résister à des attaques type déni de service, à des rançongiciels et tout un tas de trucs auxquels vous pouvez penser qui pourraient nous tomber sur la tête dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Je vous ai pas fait trop peur ? Ça va. Il n'y a pas de quoi. Je vous laisse travailler.
À tout à l'heure.
On va poursuivre avec Hervé Pallarin.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, Hervé Pellarin. Je suis RSSI du groupement hospitalier Haute-Savoie Pagex, qui comprend les établissements d'Annecy, Saint-Julien, Rumilly et Pagex. Donc, mon boulot, il est tout simple, c'est de faire en sorte que les soignants soignent. Les difficultés qu'on a avec le cyber, un hôpital, sa nature, c'est de vous ouvrir les portes, qu'importe l'heure. Tout le monde rentre. Tout est accessible. Et il n'y a pas d'autocontrôle. Très peu. Donc, quand on a la charge de sécuriser un hôpital, il faut comprendre comment ça marche. Moi, je découvre ce monde-là. J'ai postulé il y a 2 ans parce que cet hôpital m'a soigné. Quand j'ai appris qu'il cherchait de l'aide, j'ai postulé. Voilà, j'ai pas de diplôme, je suis autodidacte, je suis curieux, compulsif. Vous allez découvrir des machines qui tournent avec des droits administrateur, sans antivirus, sans EDR, accessibles de l'extérieur, avec comme login, allez, on va dire admin, et comme mot de passe, le nom de l'entreprise. Et ils vous disent après, même si nous, la cybersécurité chez Toto, on est taquet. Voilà. Et vous dites, ben, on va installer un antivirus dessus, alors on va quand même faire quelque chose. Et, ah ben non, monsieur Pellerin, elle a été homologuée comme ça, la machine, vous mettez un antivirus et je vous enlève le marquage CE. On ne peut pas garantir les analyses. Alors les gens sont surpris à l'heure actuelle en disant, c'est incroyable, il y a des cyberattaques sur les hôpitaux. Soyez plutôt surpris qu'ils soient encore debout. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça prend comme charge de travail, toute cette informatique sur laquelle on n'a pas tellement la main. Nous, on n'est pas un CHU, on a un bon hôpital, on n'est pas un CHU. On fait 50 millions d'analyses automatisées par an. Imaginez une journée de panne, tout ce qu'il faut faire à la main. Puis je vous rassure, on n'a pas le personnel en fonction publique. Il nous manque 30% de personnel dans tous les services. Et on ne peut pas s'arrêter, parce que la santé, ce n'est pas un métier qu'on arrête. Donc, pour sécuriser ça, je pars plutôt du principe que ce n'est pas est-ce qu'on va se faire compromettre, mais quand? Est-ce qu'ils sont déjà là? Où sont-ils? Donc on a fait un gros travail et effectivement, ils étaient déjà là. En France, il y a deux types d'hôpitaux. Il y a ceux qui se sont fait avoir et ceux qui ne le savent pas encore. On était dans la première catégorie. Et après, on a commencé à reprendre les choses depuis le début. Et le début, c'est quoi en fait? C'est comprendre les métiers des gens. C'est comprendre comment les gens travaillent avec l'informatique, ce à quoi ça sert pour eux. Quand vous entendez des gens qui vous disent « Oh, il faut mettre des mots de passe à 20 caractères ouais. », sachez qu'une infirmière, elle s'authentifie 400 fois par jour. Donc, mettez un mot de passe à 20 caractères, je vous conseille, le jour où vous êtes malade, de changer d'hôpital parce qu'ils ne vont pas vous louper. Il faut se mettre à leur place. Et le plus ingrat dans la sécurité, dans la cybersécurité, dans la santé, c'est que ça concerne tout le monde et on a peu de moyens. Et on doit faire avec. Il faut être très créatif. Imaginez, vous êtes chef de service, vous avez 4 infirmières, 4 infirmiers, 30 lits, urgence pédiatrique. Vous n'avez plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut aller au labo chercher la prescription? Moins un. Est-ce que quelqu'un peut aller à l'établissement du sang chercher moins 2? Est-ce que quelqu'un peut aller en pharmacie? Moins 3. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher un brancardier? Parce que vous ne pouvez pas appeler le brancardier. Moins 4. Vous n'avez plus personne. Puis vous avez toujours vos 30 patients. Oups. Voilà. C'est la santé en 2024 côté cyber. Des questions? Oui.
Aujourd'hui, quelles seraient les meilleures mesures dans les hôpitaux à adopter en termes de sécurité? Ce serait d'isoler les systèmes sans impacter les métiers derrière?
Ta question elle est extrêmement intelligente. On a compris que la communication, c'était vraiment le nerf de la guerre. On met en place un réseau secondaire.
Pour répondre aux menaces, le gouvernement a lancé en décembre un guichet unique, le 17 Cyber. Le service, accessible sur Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, traite pour l'instant 11 infractions différentes sans réussir à couvrir la totalité des attaques. Car le moindre objet connecté peut devenir problématique. La moindre image, la moindre musique peut ressembler à une illusion comme celle que vous entendez, créée artificiellement par une IA. Le magazine de la rédaction. C'est dans le parking du campus Cyber à La Défense qu'on retrouve Anaëlle Verzo, toujours en compagnie de Gaël Musquet.
C'est laquelle votre voiture?
Le Red Pearl, donc la rouge. Ma voiture, donc c'est la rouge, c'est un Toyota CHR qui a 3 ans. Et qui m'accompagne fièrement là depuis 94 000 km. C'est mon fidèle destrier.
Et pourquoi Red Pearl?
Red Pearl parce que je suis Guadeloupéen. Hein.
Ah oui, je vois la plaque d'immatriculation.
Guadeloupe. Jack Sparrow, son vaisseau, c'est le Black Pearl. C'est un pirate des Caraïbes. Je suis un hacker des Caraïbes.
Et ben voilà, allez. Et donc là, on va monter. Je vais monter avec vous.
Ok, super. Donc la voiture, elle est prête. Le petit ordinateur aussi est prêt. Donc là, le véhicule, il est autonome de niveau 3. Niveau 3, on commence à lâcher le volant et les pédales. Donc on observe un robot qui roule. Donc là, ce qu'on a en seconde monte, c'est comme si j'avais changé un autoradio dans la voiture. Sauf que cet autoradio, il est un peu sous stéroïde et qu'il est capable de prendre le contrôle du véhicule. On Donc là, on va adapter la vitesse pour se mettre un peu à la vitesse de l'autoroute. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rabattre, puisque je suis la voie de gauche, je vais me rabattre. Donc là, je vais clignoter. Et en fait, je lui donne un léger ordre. Et là, elle se place toute seule.
C'est drôle parce qu'on voit le volant qui tourne tout seul. Alors, c'est très doux, hein, c'est très délicat.
Là, vous voyez qu'on a une caméra qui filme la route et qui affiche sur un écran.
La bande verte correspond à la route, hein ?
Correspond à la route, tout à fait. Évidemment, on ne simule pas d'attaque en roulant. En tout cas, pas sur route ouverte. On en simule sur des routes fermées, des circuits, ou virtuellement. C'est-à-dire que là, quand on va rentrer au campus cyber, je vais être capable de rejouer cette séquence-là avec un joystick ou sur un ordinateur, par exemple. Et là, injecter des vulnérabilités. Donc virtuellement, je vais injecter des vulnérabilités et je vais voir si le robot se comporte de la même manière.
Est-ce que, par exemple, il se pourrait qu'un jour, il y ait des voitures connectées et autonomes qui soient en circulation et qui soient hackées par des hackers malveillants ?
On a déjà eu, il y a quelques années, des vulnérabilités qui ont été exploitées, du freinage ou de la prise de contrôle du volant.
Par exemple, là, si quelqu'un de malveillant qui vous veut du mal,
oui,
qui maîtrise très bien l'outil informatique, souhaite vous tuer,
oui,
pardon, hein.
Il peut. Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire ?
Bien sûr, en fait, là, les ordres que moi, j'injecte, il faut bien comprendre qu'ils sont générés par un ordinateur. Un ordinateur qui est connecté, lui, là, en ce moment, il est connecté à Internet, hein, ce pilote automatique. Il est en train de renvoyer tout ce qu'on est en train de faire. Les vidéos, la position où on est, la vitesse à laquelle on roule, la position du volant, est-ce que j'ai clignoté et tout. Donc, tout ça, toutes ces données, tous ces ordres-là, ils sont générés par un ordinateur qui est connecté à Internet. Et donc, il existe forcément un risque.
Et est-ce qu'il y a un lien entre l'IA, le fait que ce véhicule du coup fonctionne avec l'intelligence artificielle, et la possibilité de cyber-attaquer ces véhicules ?
Bien sûr, puisqu'en fait, qui dit rajouter des ordinateurs, rajouter des connecteurs, rajouter de la radio, rajouter des détecteurs, des capteurs, dit ben, qu'on a des fenêtres, on a des angles d'attaque, des surfaces, peut-être même des surfaces d'attaque, sur lesquelles on pourra interagir de manière malveillante avec ces véhicules.
D'accord.
Et ça ne doit pas être un sujet...
On a failli foncer dans un pigeon, mais rien à voir avec l'autonomie. Là,
là je suis en manuel.
Ouais.
Et donc, du coup, le sujet pour moi, en permanence, c'est que ça ne doit pas être un sujet uniquement d'équipementier. Ça ne doit pas être un sujet uniquement politique. Ça ne doit pas être un sujet uniquement de constructeur automobile. Ça ne doit pas être un sujet de milliardaire. Tout le monde, à partir du moment où on a accès à un véhicule, à ses connecteurs, qu'on puisse, au moment même de la conception, prévoir et anticiper toutes les attaques possibles.
Génial, merci beaucoup.
Pas de quoi, et on est revenu au parking, on se gare.
Et on est sain et sauf, il n'y a même pas eu de cyberattaque. Je suis très déçue.
J'y veille.
Nicolas Guidou, je suis contrôleur général et chef de l'Office anti-cybercriminalité.
Et récemment, est-ce que vous avez une affaire en tête dont vous pourriez parler ?
Bah, si je prends sous l'angle de l'intelligence artificielle, on a effectivement eu à traiter récemment une affaire. Donc c'est une entreprise qui était victime d'un rançongiciel, qui a payé une rançon. Et on s'est rendu compte que les auteurs étaient des anciens prestataires de cette société, qui s'étaient renseignés, qui avaient des connaissances informatiques, mais qui ont voulu augmenter leur capacité d'attaque, et donc ont été chercher des outils, et notamment ont utilisé des outils d'intelligence artificielle pour augmenter leur capacité d'attaque, et donc ont attaqué cette entreprise.
Et la rançon qu'ils demandaient était importante ?
De l'ordre de 15 000 euros. L'IA est évidemment pour nous une véritable interrogation, parce qu'on voit aujourd'hui que les groupes cybercriminels utilisent évidemment tous les moyens qui sont mis à leur disposition. C'est ce qu'on appelle la sophistication, finalement, des groupes criminels. Et puis, force est de constater qu'on est face à une situation déséquilibrée. D'un côté, on va avoir des cybercriminels qui vont s'approprier immédiatement les nouveautés de l'intelligence artificielle. Et puis nous, services d'enquête, sur lesquels, évidemment, il faut rapporter devant le législateur la possibilité d'avoir recours à ces nouveaux outils dans le cadre de nos activités.
D'accord, c'est-à-dire que vous avez l'encadrement juridique qui vous contraint. Donc vous pouvez utiliser l'IA, mais dans le cadre de la législation en vigueur, c'est ça ? Alors que les cybercriminels ont toute possibilité.
C'est exactement ça. On se retrouve face à un déséquilibre des armes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les groupes cybercriminels, ils vont se distribuer des rôles. C'est une vraie criminalité organisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se spécialiser dans la capacité de rentrer dans le système d'information, d'autres qui vont se spécialiser dans la neutralisation des antivirus, d'autres qui vont se spécialiser dans l'exfiltration des données, d'autres, évidemment, vont avoir le système de chiffrement du système d'information, et puis après, il va y avoir tout le problème du blanchiment. Et donc, le travail des services d'enquête, et de l'OFAC en particulier, ça va être d'essayer d'identifier ces différents acteurs. Donc on va avoir des blanchisseurs de cryptoactifs qu'on a interpellés, on a des individus qui sont spécialisés dans la fourniture de portes d'entrée dans les systèmes d'information qu'ils vont vendre, ou alors parce qu'ils ont vendu de la donnée et qu'on va réussir à les identifier. Donc il y a une pluralité d'auteurs finalement qu'on va être en mesure de travailler pour pouvoir les présenter à la justice.
La loi européenne sur l'intelligence artificielle a évolué. Je retrouve le général Patrick Perrotte, le conseiller IA auprès du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Nous sommes dans son bureau, à Issy-les-Moulineaux. Alors, où est-ce qu'on en est de la législation ?
En fait, la législation est entrée en vigueur. En anglais, c'est l'AI Act. En français, c'est le RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle. On a des utilisations de l'IA interdites, typiquement la cotation sociale, comme on peut trouver en Chine sur le crédit social. L'analyse prédictive sur les personnes est interdite. On n'a pas droit de faire du minority report. Et on a un certain nombre d'applications qui, elles, sont à haut risque. Typiquement, tout ce qui est potentiellement analyse prédictive des phénomènes de délinquance, donc on ne s'intéresse pas aux personnes, mais aux phénomènes, c'est une application à haut risque. Tout ce qui est autour de la détection des images pédopornographiques sera une application à haut risque, parce qu'il peut y avoir un impact sur les droits fondamentaux, il peut y avoir un impact sur les données à caractère personnel.
Alors, je suis montée dans une voiture connectée autonome. Je me demandais, quels seront les objets qui seront connectés grâce à l'IA demain, dans les jours, les semaines, les mois, les années qui arrivent et qui poseront de nouvelles questions de sécurité ?
En réalité, tout objet peut être connecté. Et ça, c'est un enjeu, effectivement, d'avenir, parce qu'on a beaucoup parlé des deepfakes. Les deepfakes, ça repose sur ce qu'on appelle les larges modèles de langage ou les larges modèles de vision pour l'image, de langage pour le texte. Mais en 2025, on voit apparaître, parce que ce n'est pas au futur, les large action models, les large modèles d'action, ce sont des IA qui seront plus autonomes, c'est-à-dire qui pourront déclencher des actions. Typiquement, si on prend l'exemple d'un objet connecté comme le réfrigérateur, aujourd'hui, l'IA est capable de vous dire « il vous manque tel ou tel produit dans votre réfrigérateur ». Fin 2025, votre IA qui gère votre réfrigérateur passera les commandes parce qu'elle connaîtra vos habitudes, elle saura combien d'œufs faut commander, combien de briques de lait faut commander, et elle le fera, si vous manque de la moutarde ou autre, elle le fera directement. Un réfrigérateur, sur le plan cyber, c'est pas très compliqué à attaquer. Et à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut faire en attaquant un réfrigérateur ? Parce qu'on va pas dérober les aliments qui sont dedans. Mais typiquement, on peut l'éteindre quand vous n'êtes pas là. Votre congélateur, on peut l'éteindre quand vous n'êtes pas là. Et le rallumer quand vous arrivez. C'est-à-dire que vous ne vous en apercevez pas. Et potentiellement, les aliments sont contaminés. Mais vous savez, le réfrigérateur peut être aussi la porte d'entrée pour infiltrer votre système d'information à l'intérieur de chez vous. Vous avez le Wi-Fi chez vous. Ouais. Votre réfrigérateur sera connecté au Wi-Fi. Votre télé sera connectée au Wi-Fi. Votre petit boîtier Alexa de chez Google ou autre est également connecté. Donc on peut connaître vos habitudes, on peut savoir quand est-ce que vous êtes chez vous ou que vous n'êtes pas chez vous, et on peut s'infiltrer chez vous pour effectivement hacker certaines de vos données personnelles, hacker certaines de vos habitudes, et ça c'est quand même une difficulté. Si vous voulez, l'intrusion cyber peut générer une intrusion physique. Si je connais vos habitudes par une intrusion cyber, je sais quand venir vous cambrioler. Et donc ça peut être également un enjeu, ou quand venir potentiellement vous agresser.
Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas finalement de vendre ces objets connectés ? Ça simplifierait les choses, non ?
Ça simplifierait certainement les choses, mais vous auriez beaucoup moins de services. Sauf à être un régime autoritaire, on n'interdira pas ces outils-là. En fait, c'est un peu comme les IA génératives. On ne pourra pas les arrêter. C'est illusoire de le penser. Vous savez, la réglementation à l'intelligence artificielle, elle est sortie alors que les IA génératives de type large modèle de langage arrivaient. Et on sent bien qu'il y a des difficultés à appréhender. Parce qu'en réalité, ces larges modèles de langage, ils utilisent de la donnée à caractère personnel. Ils utilisent beaucoup d'énergie. Ils violent potentiellement le droit à la propriété intellectuelle. Ils ne sont pas transparents, ils ne sont pas explicables. Globalement, ils sont l'opposé des principes éthiques qui ont conduit à la réglementation européenne. Et pourtant, tout le monde les utilise.
Et c'est avec ces outils d'intelligence artificielle qu'on referme cette émission. De la musique, des paroles, le mot de la fin, tout ce que vous allez entendre sort de l'imagination d'un super ordinateur.
Et le rédacteur en chef, c'est Aurélien Colli. Yeah,
yeah, yeah. Abonnez-vous à Interception sur la Pi Radio France.
Bon dimanche à tous. Wow.